des nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les éditions Joël Losfeld, depuis le milieu des années 2000, ont la bonne idée de republier les romans signés Jean Meckert, dont Nous avons les mains rouges, prix mémorable initial, L'homme au marteau et, plus récemment, La ville de plomb. Roman dont l'action se situe en novembre et décembre 1945 à Paris, dans le quartier de Belleville pour être précis. Roman publié en 1949 dans la collection Blanche, mais roman très noir. Roman pour lequel Jean Meckert était l'invité de Jean Rabaud dans l'émission Actualité du livre le 18 novembre 1949 sur la chaîne parisienne.
Jean Rabaud vous présente l'actualité du livre. Aujourd'hui, La ville de plomb de Jean Meckert. Avec le concours de Roger Bertrand et de l'auteur.
Jean Meckert est un écrivain jeune, on peut dire qu'il est jeune, il l'est par les dispositions d'esprit et par l'âge, puisqu'il a 39 ans encore, il a seulement 39 ans, et il en est à son cinquième roman. Les quatre premiers, qui ont paru entre 1942 et 1947, s'appelaient Les coups, L'homme au marteau, La lucarne et Nous avons les mains rouges. Il vient de publier récemment La ville de plomb. Jean Meckert présente cette particularité assez peu répandue en France dans ce qu'on appelle d'un terme discutable le monde littéraire, d'être un ouvrier écrivain. Je veux dire un écrivain qui s'est formé à travers la seule expérience de sa vie d'ouvrier et de salarié, et à travers des lectures qui n'ont pas été dirigées, qui n'ont en tout cas pas été guidées par une école ni par un maître déterminé. Cela pose naturellement une foule de problèmes, mais auparavant, présentons Jean Meckert. C'est un garçon qui ne paraît pas son âge, de taille moyenne, de maintien et de mise simple, avec, dans l'expression, un assez curieux mélange d'ironie très parisienne, de facilité à la blague et de propension à la blague qui sentent bien son quartier de Belleville, et en même temps d'idéalisme, et une espèce de générosité tempérée par le goût de l'autocritique et d'une espèce de mise en défense contre le monde, contre lequel on se garantit par la propension à la plaisanterie. Le plus simple est après tout que je ne retarde pas plus longtemps le moment de lui donner la parole, et je vais lui demander tout d'abord de nous retracer brièvement ce qu'a été son existence.
Oh, je ne sais pas, c'est assez difficile à dire. Je crois que j'ai commencé, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai commencé assez tôt dans la vie. J'ai commencé par être apprenti électricien. J'ai travaillé dans un atelier, ça se trouvait du côté de Saint-Fargeau. Saint-Fargeau, c'est à Belleville. Et je m'occupais de collecteurs. C'est-à-dire qu'on avait des petits appareils et il fallait que je les contrôle. J'avais des électrodes et je regardais s'il y avait un contact entre les lamelles de cuivre.
Mais enfin, avant d'être dans les électrodes et dans votre atelier, vous aviez pris la peine de naître. Votre père était quoi ?
Mon père a fait différents métiers. Je crois qu'il était camelot, finalement. Il a vendu un petit peu de tout. Il a vendu des stylos, notamment. Je me rappelle qu'une fois, on était partis tous les deux aussi. Il avait inventé un appareil photographique, ou réinventé. On faisait deux photos sur une même plaque, c'est-à-dire qu'on pouvait prendre deux fois une personne sur une même plaque par un petit système de cache. Alors on faisait les gens se parlant à eux-mêmes, ou bien jouant aux cartes avec eux autour d'une table, enfin, c'était marrant. Alors on voulait aller de Paris à Nice, on voulait faire toutes les foires et descendre de Paris à Nice tous les deux. Finalement on s'est arrêté à Fontainebleau ou à Moret, enfin je sais pas. Ça gazait pas parce qu'on n'avait pas de sous, on a loupé deux ou trois foires.
En somme, monsieur votre père, si je comprends bien, il était camelot, il avait un peu la bougeotte, et il était très ingénieux, il avait le goût de l'invention et de la création dans son domaine, n'est-ce pas ? Sous ce rapport-là, vous avez probablement de qui tenir. Mais nous en étions tout à l'heure à vos premiers apprentissages à l'atelier, vous avez en somme été électricien et, si l'on veut, vérificateur. Et après ?
J'ai travaillé alors dans la mécanique de précision. On fabriquait des tarots et des filières. C'est des petits trucs pour faire des pas de vis.
Et après?
Après, j'ai travaillé comme employé de banque. J'ai travaillé au Crédit Lyonnais, j'ai travaillé dans une banque américaine. Là, j'étais board boy. Ça consistait à avoir un casque sur les oreilles, à écouter les cours de New York et à écrire ça sur les tableaux, enfin pour les millionnaires qui étaient, oui, qui étaient dans la salle.
Ah, ça, vous avez souvent changé. Tout ça, c'était pour en tenter, comme disait l'autre quand on lui a coupé la tête, n'est-ce pas?
Ah, bah, pour en tenter, et... c'était surtout pour vivre, je crois.
Pour vivre aussi. Mais enfin, vous avez quand même le goût du changement.
Oui, enfin.
Probablement. c'était pas uniquement les difficultés rencontrées dans chaque maison qui vous faisaient partir.
Non, enfin, c'était le goût d'aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passait, je crois.
Et avec ça, vous avez toujours eu, étant très jeune, l'envie d'écrire. Il y a là un de vos amis, celui que vous avez amené, Roger Bertrand, et qui est à la fois dans l'existence représentant, puisqu'il vend des tapis brosses, et en même temps artiste, puisqu'il a un groupe théâtral, il a des ambitions théâtrales qu'il a commencé à réaliser. Roger Bertrand, vous avez connu Jean Mecker,
oui,
à un âge très jeune, enfin très tendre, vous avez été son camarade d'école ou quelque chose comme ça.
Enfin, camarade de sport d'abord, et puis ensuite de camping. Et il est évident que, puisqu'on parle de la création littéraire, que Jean a toujours eu le désir, enfin on sentait en lui, n'est-ce pas, de sa prime jeunesse, le besoin de s'exprimer et que ça se ferait par le roman, par la littérature.
Enfin on sentait qu'il avait besoin que ça sorte et on savait que ça sortirait.
Et oui, on savait que ça sortirait, n'est-ce pas. Je vous ai cité tout à l'heure un petit exemple, je peux le répéter ici. Je suis resté 8 années sans avoir de nouvelles de Jean, et brusquement, à mon retour de la captivité, j'ai appris que Jean avait écrit 2 romans, et je me suis dit en moi-même, ça y est, c'est pas, il a fait ce qu'il devait faire. C'est pas, il a trouvé sa voie, il s'est fixé, et maintenant il va pouvoir s'exprimer, enfin, dire à tout le monde ce qu'il a envie de dire. Car je crois que dans l'œuvre Mecker, il y a un message, il y a le côté message qu'il a besoin.
Enfin, nous en parlons si vous voulez bien tout à l'heure. Résumons-nous, n'est-ce pas, un peu tous les métiers, l'envie d'écrire très jeune. Déjà 5 romans publiés, et en somme, le microbe de la littérature, il le portait en lui, personne ne vous l'a inoculé.
Absolument.
Oh, je crois pas, enfin, vous savez, c'est une chose qu'on trouve en soi. Ça vient d'où, on n'en sait rien, c'est peut-être par les lectures qu'on fait. Je sais que là-haut, à Belleville, je crois que dans tous les quartiers d'ailleurs, c'est comme ça, enfin, il y a des bibliothèques municipales. Et dans ces bibliothèques municipales, il y en a des bien fournies, des moins bien. Là-haut à Belleville, il y en a une qui ça se passe rue Fessard et une autre à la mairie du 20e arrondissement. Alors il y a une quantité de romans, des essais, des pièces de théâtre. On lit, puis un jour on s'aperçoit qu'on a envie d'écrire, enfin d'en faire autant, je crois que ça commence comme ça.
Mais si je vous posais la question passe-partout, y a-t-il un écrivain ou des écrivains qui vous aient spécialement influencé? Qu'est-ce que vous répondriez?
Ben, on m'a déjà posé plusieurs fois cette question, j'ai été embêté à chaque fois. Et je pense que s'il faut se trouver des maîtres, enfin... Et j'ai toujours parlé de Céline. Je ne sais pas, je ne peux pas considérer Céline comme un maître.
Vous ne vous forcez pas pour en trouver si vous n'en avez pas. On vous demande des réponses sincères.
Oui, il y a simplement des gens qu'on aime mieux que les autres. Pourquoi, on n'en sait rien? Parce que ça répond peut-être davantage à son tempérament.
Bon. Mais si nous en venions, voulez-vous, à votre Ville de Plomb, votre dernier roman, voulez-vous nous dire ce qu'il y a dedans? Racontez-le vous-même, rapidement.
Oh, c'est difficile, ça, de raconter. Enfin, un roman, vous savez, un roman, enfin, on passe 6 mois, on passe 1 an à le faire. On a essayé de mettre tout ce qu'on avait dedans, de le raconter ensuite. Enfin, l'histoire, voilà, c'est l'histoire de jeunes gens qui habitent Belleville. Je connais autre chose que Belleville, mais enfin, je connais bien Belleville, parce que c'est mon quartier, j'y ai toujours habité. Et ces jeunes gens se rencontrent, donc, ça se passe après la guerre, ça se passe, on peut le situer très exactement, ça passe en novembre, décembre 45. Et... l'un de ces jeunes gens s'appelle Marcel, il est dessinateur dans le civil, et il a idée d'écrire. Et qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit un roman. Et ce roman se passe, enfin dans son roman, il imagine que Paris a été détruit par une bombe atomique. Alors, dans le roman La Ville de Plomb, son roman d'ailleurs, il l'appelle La Ville de Plomb, dans ce roman, il y a l'histoire de plusieurs jeunes gens de Belleville, et l'histoire de ce roman même écrit par ce romancier Marcel. Ça paraît bien compliqué ce que je dis, en fait c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Vous avez, ce garçon s'appelle Marcel. Vous avez un autre garçon, son copain, qui s'appelle Étienne, qui commence par, comment dirais-je ça, enfin il va voir une camarade, une femme de son atelier, qui lui enlève sa virginité, si on veut. Et ma foi, il n'est pas content parce que cette dame est nettement plus âgée que lui, et il avait besoin de ça.
Mais il se dit un peu tard.
Il a dit un petit peu tard, mais enfin, c'était un petit besoin, lui. Et hop, ça y est, il est passé par là. Il regarde la femme, ça le dégoûte un petit peu, il lui fout une volée. Mais alors, une bonne tisane maison. Et la femme reste sur le carreau, et on apprend un petit peu plus tard qu'elle est malencontreusement tombée et qu'elle a le crâne fracturé. Enfin, elle meurt. Et
sa femme... Couveillante entraîner la mort sans intention de la donner. Voilà la qualification pénale, n'est-ce pas, c'est ça.
Oui, d'ailleurs, il est arrêté un petit peu plus tard, et par l'arrangement des choses, on imagine que c'est Marcel, son copain, avec lequel il s'est fâché, qui l'a donné.
Dénoncé.
Mais pas du tout. Marcel est un bon petit gars, il ne l'a pas dénoncé du tout. Mais enfin, il faut qu'il agisse comme s'il l'avait dénoncé. La rivalité qu'il y a entre eux, c'est au sujet d'une fille. Une fille qui s'appelle Gilberte et que Marcel aime beaucoup. Qu'Étienne aime bien, mais c'est surtout parce qu'il peut coucher avec. Il en fait sa maîtresse. Et puis ensuite, il la laisse tomber. Alors Marcel n'est pas content, il s'engueule, ils vont enfin avoir une partie de basket. Et c'est là qu'il dit devant tout le monde que Marcel, que Ken a fait le coup, qu'il a tué une vieille femme, etc. Ensuite, Marcel, devant se retrancher alors sur lui-même, continue à écrire ce roman de la ville de plomb, auquel personne ne s'intéresse dans son entourage, et raconte en quelque sorte les événements dont il a été témoin dans le cadre de cette ville atomisée, cette ville de Paris, où il ne reste plus rien du tout, il ne reste que des rats qui se battent dans la ville, et à chaque instant, crainte des radiations qui peuvent se propager.
C'est très cauchemardant.
Oui, enfin, je crois que tout ce passage-là est en effet, c'est un petit peu voulu, c'est tourné au noir, justement, c'est pour expliquer enfin, ce qui se passe dans l'âme d'un adolescent. D'abord, la seule chose à laquelle peut penser un adolescent, pouvait penser un adolescent surtout en 45, 46, à l'époque, enfin, Bikini n'était pas loin, je crois, c'était à la perspective d'un Paris qui serait complètement volatilisé par une explosion. C'est ce qu'il a rendu dans son roman. Et petit à petit, il se forme, en écrivant ce roman, il se forme lui-même et il aboutit à une recréation de soi, un individu. Enfin, là, je parle de mots, recréation, individu, tout ça. Je voudrais rester sur le terrain quotidien, enfin, le terrain de ce qui se passe exactement dans le roman. Ce n'est pas du tout un roman d'idées que j'ai voulu faire. C'est un roman où il se passait des choses, et des choses qui existent. Par exemple, je ne sais pas, il y a des parties de basket dans ce roman.
La partie de basket est très frappante. Qu'est-ce que vous en pensez, Roger Bertrand?
Elle est très vraie, n'est-ce pas? On sent que Bekir a été
un
basketteur.
On y est.
Il faut le dire, Bekir a été un basketteur de talent, n'est-ce pas?
Et on voit les équipes qui discutent le ballon. On voit la petite fille, la petite copine d'un des joueurs qui est là sur la touche, qui s'essaye à parler anglais, qui s'excite, qui engueule l'arbitre.
C'est très vrai, c'est très vécu, n'est-ce pas? C'est ça.
Je crois que les scènes d'atelier également sont des scènes sur le vif.
Oui, ça c'est. On sent le côté réel de cette chose-là, ça a été vécu, n'est-ce pas? On sent, c'est très précis dans la description et ça prouve que
on est à l'atelier et on a l'impression, moi qui ne suis pas un habitué, n'est-ce pas, quand même, des lieux où les ouvriers travaillent, qui ne suis pas un habitué quotidien des lieux où les ouvriers travaillent, j'ai quand même l'impression très nette que cet atelier est bel et bien un atelier bellevillois et que ça ne peut pas être l'atelier de chez Citroën ou de chez Renault, n'est-ce pas, qu'il est très, très localisé.
C'est très juste ce que vous dites.
Oui, cet atelier existe d'abord, c'est l'atelier où j'ai débuté quand j'étais apprenti électricien, c'est un atelier qui habite rue Saint-Fargeau. Oui, je voulais dire, en parlant de la rue Saint-Fargeau, il y a un autre passage, il y a un certain terrain vague aussi. Ce terrain vague, je ne sais pas si tu le connais, Roger.
Oui, bien sûr.
Tu sais, c'est au coin du métro télégraphe.
Tu vas me faire injure, là. Je ne connaissais pas ça, alors.
Alors, il y a toute une scène qui se passe, là, quand le père d'Étienne apprend que son fils est un meurtrier, honte sur la famille. Alors, il engueule son fils, il est en savate, il va en savate dans le petit terrain vague, plein d'humidité. Et alors, là, il engueule son fils. Enfin, il y a une scène épouvantable dans ce terrain vague. Mais ce terrain vague existe, c'est adossé au cimetière de Belleville. C'est là, c'est... Enfin, on ne l'a pas inventé, évidemment.
Enfin, on les voit, donc... n'est-ce pas? On les voit, ces lieux-là, c'est pas douteux.
Je crois que les lieux, je crois que les personnages, d'ailleurs, ont été très observés. Je pense pas qu'on puisse inventer, enfin, ce genre de littérature, si on peut appeler ça un genre, n'est-ce pas, qu'on puisse inventer des personnages. Il faut que ce soit observé et que ça existe réellement. Les lieux existent, les personnages existent, plus ou moins ont été recréés par différents personnages dont on a fait un personnage de roman.
Oui, maintenant les drames de ces personnages eux-mêmes sont, je crois, également des drames extrêmement quotidiens, n'est-ce pas? Je ne parle pas évidemment de cet assassinat par erreur, qui n'est pas tellement fréquent, n'est-ce pas? Mais en particulier le personnage de la petite dactylo, Gilbert, n'est-ce pas? Avec son amour pour sa machine, avec ses flirts ou ses rancunes à l'égard des camarades d'atelier ou de bureau, Ses rapports avec sa mère qui voudra lui voir faire une fin, son père qui veut venger l'honneur de la famille, ses hésitations entre le monsieur respectable qui voudrait l'épouser et qu'elle n'aime pas, et le petit garçon sympathique auquel elle s'est donnée un peu par surprise, avec tout ce qui s'ensuit, etc. Tout ça est également du drame extrêmement commun, n'est-ce pas ?
Oh oui, tout ça est observé, absolument, et ça repose sur des éléments qui existent.
En ce sens-là, n'est-ce pas, il y a tout dans votre livre, il y a tout un côté réaliste, tout un côté réaliste très directement photographié, n'est-ce pas, photographié avec art, mais photographié sur la nature. Et ceci m'amène à vous poser d'autres questions, qui sont des questions également classiques, mais enfin, et qui ont leur intérêt, qui dépassent même le cadre du roman même. Est-ce qu'on peut vous ranger dans une école, dans une catégorie d'écrivains qu'on pourrait baptiser de prolétariens ou de populistes ? Qu'est-ce que vous êtes ? Comment est-ce que vous vous définissez ? D'abord, est-ce que vous consentez à vous définir ?
Oh, je ne sais pas. Enfin, vous savez, le fait... personnellement, ça m'est complètement indifférent qu'on me range dans telle ou dans telle école.
D'ailleurs, les critiques, en général, vous vous en moquez.
Oui, un petit peu. On avait fait dernièrement, justement, à Belleville, on s'occupe avec Roger Bertrand, justement, d'un petit groupe où on cherche à donner... apprendre aux gens, enfin, ce que donner le goût de la littérature, de la peinture, du théâtre, etc. On a fait une petite séance et intitulée « L'écrivain devant la critique ». Alors j'avais demandé à plusieurs critiques de venir, il y en a d'ailleurs très peu qui sont venus.
Et je n'étais pas non plus le grand critique puisque j'y étais.
Eh bien, on a essayé donc de savoir à quoi pouvait servir le critique et j'en étais arrivé, enfin c'est une position toute personnelle, à dire que le critique était absolument inutile, enfin, ou très peu utile. Parce que je crois qu'il n'apprend pas grand-chose, en tout cas, à l'écrivain. D'ailleurs, un critique ne critique pas pour un écrivain, mais pour des lecteurs.
Dis-moi, nous parlons d'écrivains. Avez-vous quand même reçu, au moins à vos débuts, des encouragements qui vous ont été utiles ?
Oh oui, de différents côtés. Je me rappelle qu'une fois, je sais pas, oui, je peux le dire quand même, cette histoire-là, ça met quelqu'un en cause, ça met M. Roger Martin Dugard en cause. Mais je ne pense pas qu'il se vexera de l'histoire. J'avais reçu une lettre de lui, et je ne m'en souviens pas des termes. Enfin, elle était, mon Dieu, très élogieuse, très, très gentille, en tout cas, pour moi. Elle était tellement gentille que j'ai cru que c'était un copain qui me faisait une blague, et que j'ai demandé ensuite à tous les copains, « Dis donc, c'est quoi Roger Martin Dugard ?» Or, pas du tout, c'était bien M. Roger Martin Dugard qui m'avait écrit cette lettre. Alors, j'en étais très content ensuite, quoi.
En bref, comment est-ce que, si l'on persiste à vous poser cette question qui ne vous est pas tellement agréable, comment est-ce qu'on peut essayer de vous définir ? Je veux dire par là qu'il y a eu différentes sortes de romans à ambition prolétarienne ou populiste, depuis Zola jusqu'à Poulaille, en passant par bien d'autres. Il y a des romans également qu'on a pu qualifier de populistes par certains côtés, comme ceux de Céline. Et il me semble que la différence entre ce que vous faites et ce qu'ont fait les gens dont je parle, c'est que d'une part... il y a une espèce de populisme noir, où les personnages sont extrêmement déterminés et en même temps très désespérés, où ils sont assez mécaniques et assez brutaux, et en même temps où leur existence apparaît un peu comme sans issue, n'est-ce pas ? Je pense par exemple au Germinal de Zola. Mm-hmm. Et puis, il y a d'autre côté le roman populiste très politisé, du style Poulaille, où le seul espoir, la seule issue pour les gens, c'est l'action politique ou l'action syndicale. Georges Navelle, qui est plus vieux que vous, mais qui est également un ouvrier écrivain, a écrit « Il y a une tristesse ouvrière dont on ne se délivre que par la participation politique ». Je ne crois pas que ce soit votre avis.
Non, je ne pense pas. Je pense que la politique est quelque chose de très vaste, de très noble, si l'on veut. Mais enfin, il y a d'autres questions que les gens peuvent se poser. Et pour moi, personnellement, je pense que la question principale, c'est que les gens, enfin les héros comme, de mes romans comme moi-même, une impression de joie d'exister, enfin d'avoir chaud dans leur existence.
Vos personnages sont très chauds, c'est exact. Ils ont beaucoup de malheur, ils ont des misères, mais ils sont en même temps très chaleureux. Ils rayonnent de la chaleur, c'est vrai.
Ben, je pense que c'est ça, en somme, qu'il faudrait amener. Beaucoup de gens sont... on parle de chaleur et de... je crois que beaucoup de gens sont froids et que certaines gens peuvent être réchauffés par la politique, alors que cela fasse de la politique. Mais ceux pour qui la politique n'est qu'une mécanique comme une autre, ben, ceux-là qui se réchauffent autrement. Et s'il y a, par exemple... je ne sais pas, l'art, s'il y a la peinture, s'il y a la possibilité d'écrire un roman, d'appeler la poésie ou quelque chose.
L'expression artistique, en général.
L'expression artistique, si ça leur fait chaud au ventre, eh bien qu'ils fassent, qu'ils donnent dans une expression artistique. Voilà, à mon sens, ce qui est ma position.
Jean Rabaud vous a présenté l'actualité du livre. C'était aujourd'hui La ville de plomb de Jean Mecker avec le concours de Roger Bertrand et de l'auteur.
C'était Actualité du livre, Jean Meckert au micro de Jean Rabaud sur la chaîne parisienne le 18 novembre 1949. Rappelons que La ville de plomb est republiée chez Joël Losfeld Éditions ainsi que d'autres œuvres du même auteur, L'homme au marteau et Nous avons les mains rouges, prix mémorable initial. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture.